Shalom Uvracha. Cette semaine, dans la Maseret Yoma, nous avons terminé le premier chapitre et entamé l'étude du deuxième. Cette semaine également, nous terminerons le troisième livre de la Torah, le livre de Vayikra, avec une double portion, Béar, Bechukotai, et dès l'après-midi, nous commencerons le quatrième livre de la Torah, le livre de Ben Midbar, qui va nous conduire à la fête de Shavuot. L'actualité nous a rejoints avec les événements de Méron de la semaine dernière. Et effectivement, beaucoup de choses ont été dites. Et la meilleure chose à dire, c'est probablement l'Echa Dumia Teila. Pour toi, c'est le silence qui est la plus grande des louanges. Et le mieux, c'est de réfléchir en silence ou par allusion à ces événements sans essayer de rajouter du bruit au tumulte qu'il y a déjà eu. Dans la paracha de Béar, qui nous parle de la Shemitah de l'année sabbatique qui s'annonce dans quelques mois, et du jubilé, il y a une allusion naturellement au jour de Yom Kippour, puisque une fois tous les 50 ans, le jour de Yom Kippour, pour proclamer la liberté de ceux qui avaient besoin d'être affranchis et le retour des terres à leurs propriétaires initiaux, alors il y avait le jubilé avec le jour de Yom Kippour, la sonnerie du chauffard, Ve'avarta chauffard, tu feras passer le chauffard. Et c'est d'ailleurs de ce texte et en le rapprochant de l'injonction qui est faite de sonner le chauffard à Rosh Hashanah que l'on apprend comment se passe et avec quel instrument ces sonneries se réalisent. Au-delà de ce premier point, il y a également un autre événement qui va arriver ce Shabbat. Nous allons lire le cinquième et réellement dernier chapitre de Maseret Avot, des Pirkei Avot. Cinquième chapitre pour lequel les sages ont ajouté un sixième chapitre Kinyan HaTorah, pour permettre effectivement la semaine d'après, le dernier Shabbat avant Shavuot, également de continuer cette réflexion au travers des maximes de nos pères qui sont directement liées à des leçons de Moussar. Donc, c'est un peu surprenant que cette semaine, le cinquième chapitre, énumère des chiffres en nous disant qu'il y avait 10 paroles par lesquelles le monde a été créé, 10 générations d'Adam jusqu'à Noar, 10 de Noar à Abraham, 10 miracles qui ont été faits pour nos ancêtres en Égypte, et enfin la cinquième Mishnah, qui nous dit qu'il y a 10 miracles qui ont été réalisés en faveur de nos ancêtres dans le Beth Amikdash. On peut se demander quelles leçons de Moussar on peut retirer du fait qu'on nous cite des miracles qui ont été réalisés dans le Beth Amikdash. En réalité, quand on voit la liste de ces 10 choses, qui d'ailleurs, et c'est le point commun, apparaissent dans cette dernière page du premier chapitre de Yoma, la page Kaf Alef, la page 21 que nous avons étudiée dimanche, on voit l'énumération de ces 10 miracles, en commençant par nous dire qu'aucune femme n'a jamais fait de fausse couche dans le temple parce qu'elle aurait eu des envies subites en sentant l'odeur de cette viande grillée, les corbanotes, les sacrifices qui étaient consumés toute la journée sur l'autel de Jérusalem. Quelle leçon de Moussar peut-on tirer de là? En réalité, la Gemara nous apporte dans un autre texte la réponse en nous disant que un jour, on est venu dire à Rabbi Yehuda Hanassi, il y a une femme enceinte, aujourd'hui, Yom de Kippour, qui veut manger. Alors, Rabbi Yehuda Hanassi a dit, allez lui dire dans le creux de l'oreille que c'est aujourd'hui Kippour et qu'on ne peut pas manger. Ça a calmé sa faim. Et cette femme, qui a su surmonter son envie, a donné naissance à un jeune garçon qui est devenu Rabbi Yochanan, celui qui a rédigé le Talmud de Jérusalem. Ce qui nous montre que la maîtrise de ces pulsions, de cette envie, lorsqu'elle a été réalisée par cette femme, a permis l'arrivée dans ce monde d'une âme, d'une élévation tellement exceptionnelle. La Gemara continue, cette Gemara continue en nous citant un deuxième cas d'une femme qui, elle, va également enceinte le jour de Yom Kippour avoir une envie, à qui on viendra dire la même chose, mais qui ne surmontera pas ses pulsions et à qui on sera obligé, parce que c'est piquoir des fèches, une question de vie ou de mort, de lui donner à manger. Malheureusement, l'enfant qui naîtra de cette femme ira sur un chemin qui n'est pas le bon. Alors, c'est ce qui permet de dire à Rabbi Eliaou, le Gaon de Vilna, une allusion qu'il voit dans le dernier verset de la parashat Shemini qui nous parlait des animaux purs et des animaux impurs. Quand la Torah nous dit « L'avdil ben tamel ou le ben ataor » faire la différence entre l'animal qui est pur et l'animal qui est impur, effectivement, Rashi est étonné. On nous a déjà donné tous les critères, alors quoi, on nous reparle de faire la différence entre une vache et un âne. On a déjà vu comment les différencier. Mais en réalité, c'est d'autres choses, et je vous renvoie à Rashi sur place, dont on nous parle, et le pasouk termine en nous disant de manière surprenante, ben achaya nechelet, entre l'animal sauvage qui peut être consommé, ou ben achaya asher loteachel, et cet animal sauvage toujours qui ne pourrait pas être consommé. Là aussi, on est un peu surpris parce qu'on a déjà eu les critères, on vient d'être étonné qu'on nous le répète, et on vient une troisième fois. Et le Gaon de Vilna nous dit, le mot chaya ne veut pas dire simplement femme, veut pas seulement dire animal sauvage, mais veut dire également chaya yoledet, une femme qui donne la vie, une femme qui accouche. Et donc, faire la différence entre une femme enceinte, une femme qui doit accoucher, donner la vie, qui ne mangera pas le jour de Kippour parce qu'elle saura surmonter son envie, et celle qui, au contraire, n'arrivera pas à se maîtriser, mangera, et on peut voir au travers des enfants auxquels elles vont donner naissance, la différence, les avdil, faire la différence entre l'un et l'autre. Alors, cette Mishnah de Pirkei Avot, on la retrouve citée justement dans la Gemara Yoma, étudiée à la page 21, cette semaine, le dimanche, et avant de la citer, comme par hasard, comme si le hasard existait, on commence par le huitième des 10 cas de la Mishnah, en nous disant que dans le Beth Amikdash, pour les fêtes, les Juifs étaient tellement nombreux à venir dans les fêtes de pèlerinage au Beth Amikdash, qui compris dans les 11 amotes, les 5 mètres et demi qui se trouvaient au-delà du Kodesh HaKodashim, derrière, sur l'esplanade, les gens se regroupaient là-bas. Et même s'ils étaient extrêmement nombreux, Omdim Tsefufim, lorsqu'ils étaient debout, ils étaient serrés, à tel point que Rashi nous dit Tsefufim, ça vient du mot Tsaf, qui veut dire flotter. Ils étaient tellement serrés que leurs pieds ne touchaient plus le sol et qu'ils étaient portés par la pression de ceux qui se trouvaient à côté d'eux. Et lorsque, le jour de Kippour, ils devaient se prosterner à chaque fois que, à 5 reprises, le Kohen Gadol prononçait le nom ineffable de Hakadosh Baruch Hu, Mishtachavim Revachim. Ils se prosterner en étant à l'aise, c'est-à-dire en ayant Arba Amot, 2 mètres de tous les côtés. Là, on ne comprend pas. Effectivement, c'est un miracle. Mais quand ils sont debout, ils sont serrés. Et quand ils se prosternent, ils sont au large, avec de l'espace entre l'un et l'autre. On apprend 2 choses. La première, c'est que si chacun campe sur ses positions, se tient bien droit, veut être moi, avec un ego surdimensionné, c'est Foufim. Alors il y a cohue. Il y a beaucoup de gens qui se bousculent au portillon. Il y a beaucoup de gens qui veulent être le chef ou le calife à la place du calife. Et là, il y a de la place pour personne. Par contre, si les gens savent se prosterner, savent se rabaisser, savent faire de la place à l'autre, alors au contraire, tout le monde se trouve au large. La deuxième leçon, c'est que le jour de Yom Kippour, lorsque les Juifs se prosternaient en entendant le nom divin, ils faisaient le vidouille. Ils récitaient la confession de leur faute. Et Akadosh Baruch Hu faisait ce miracle pour permettre qu'il y ait une distance suffisante entre l'un et l'autre pour que l'un n'entende pas la confession des fautes de l'autre. Même les jours de fête, lorsqu'ils étaient debout ou qu'ils avaient besoin de parler, il y avait ce même phénomène de distance, parce qu'à ce moment-là, les gens priaient, demandaient qui, la parnassa, l'autre des enfants, l'autre la santé. Et même ces dossiers personnels, Akadosh Baruch Hu voulait que chacun puisse le faire en toute discrétion. Il y a un deuxième épisode que l'on a vu plus tard cette semaine, à la page Kaf Gimel, à la page 23, où on nous dit qu'on a été obligé d'instituer un tirage au sort pour savoir quels seraient les Kohanim qui participeraient aux différentes actions accomplies dans le Beth Amikdash pour présenter les sacrifices. Et on nous cite deux cas. Le premier, de ceux qui faisaient la course sur la rampe d'accès au Mizbeach à l'autel pour pouvoir être les premiers à ramasser les cendres, la première tâche qui devait être effectuée le matin à l'ouverture de la nouvelle journée. Jusqu'au jour où, dans la bousculade, il y en a un qui s'est cassé la jambe et qu'on a institué un tirage au sort pour éviter qu'il y ait ces bousculades. Un peu plus loin, lorsque la Gemara reparle de cet incident, elle nous dit qu'il y en a même eu un deuxième, beaucoup plus tragique. C'est que malgré l'organisation du tirage au sort, il a fallu, lorsqu'on a voulu limiter les risques aux quatre amotes finales, lorsqu'ils étaient en train de courir, il y en a un qui, voyant que son confrère allait le rattraper, a carrément sorti un couteau et lui a planté dans le cœur. Cet homme, ce jeune Cohen, est tombé. Il était là avec les subrosseaux qui précèdent la mort. Et de manière surprenante, la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, le père de cet enfant qui était là a dit « Mais mon fils est encore vivant !» Ça veut dire quoi? Il faut le soigner? Pas du tout. Il faut vite le sortir avant qu'il meure et qu'il ne rende impur le couteau qui lui a été planté dans la poitrine. Pour nous dire, attention, on est là devant une situation catastrophique. La catastrophe, c'est que les valeurs ont été complètement inversées et que l'état de pureté d'un couteau peut paraître à certains, à tort, plus important même que la vie. Je ne voudrais pas dire d'autre chose, simplement nous appeler, chacun d'entre nous, sans pointer un doigt accusateur vers qui que ce soit. Parce que quand on le fait, un doigt vers l'autre, il y en a trois qui sont tournés vers nous. Nous devons, chacun d'entre nous, faire le cheshbon hanefesh, le bilan de conscience nécessaire, pour trouver, comme je l'ai entendu dire cette semaine par le Rav Ben Ishai, non pas pourquoi, mais se poser la vraie question qui est vers quoi? Vers quoi cet événement tragique de Meron la semaine dernière doit-il nous conduire maintenant par notre réflexion en réparant ce que chacun d'entre nous doit réparer? Face à Kadosh Baruch Hu, qu'il apporte la consolation à toutes ces familles qui ont été touchées par ces deuils, qu'il recueille auprès de lui, dans sa grande miséricorde, toutes ces âmes élevées qui sont parties dans ces circonstances, et que tous les blessés qui sont encore en train de souffrir de ce qui s'est passé retrouvent leur santé, la guérison, et un prompt et complet rétablissement. Que l'on entende de bonnes nouvelles, Shenishma Besorot Tovot, Shabbat Shalom, Vecholtuv.